Philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jeudard, le 27 février 1991.
Quelques petites questions. Je crois que l'intellect d'agent, et ça vous agite beaucoup, n'est-ce pas? Vous avez des petits coups de... Ça grignote. En philosophie éthique, vous avez parlé de l'acte de foi, qui était au-delà de la distinction intellect d'agent, intellect possible, car c'est un acte qui touche la racine même de l'intelligence. L'acte de foi, évidemment, est un acte de l'intellect, de l'intelligence surélevée par la foi. Pouvez-vous préciser, par rapport à la philosophie du vivant, qu'est-ce qu'il faut entendre par la racine même de l'intelligence? Pourriez-vous expliquer ce qu'est la puissance, voilà, la dunamis intellectuelle découverte en philosophie du vivant, est-elle du même type que les autres puissances, ou bien tout autre? Quel lien entre cette puissance et l'âme découverte comme principe et le nous agent? Ça, c'est autre chose. En philosophie du vivant, On est en présence d'une dunamis, d'une capacité spirituelle, au-delà de la matière, quasi infinie. Capable de saisir les principes propres de ce qui est. Capable de saisir la ratio endis, la raison d'être, et tous les transcendentaux. Elle a donc une ouverture quasi infinie. Alors, par cette ouverture quasi infinie, je peux saisir la profondeur de cette capacité qui n'a pas de limite autre que l'être. C'est donc l'être en puissance au niveau vital. Et l'être en puissance est tout entier relatif à l'être en acte. Il n'a pas de limite, quasi infini. Là, je touche la racine de mon intelligence. Vous allez jusque-là, vous touchez la racine de l'intelligence, sa capacité. Vous voyez, la racine de l'intelligence se prend du côté de l'intellect possible, et non pas du côté de l'intellect agent. L'intellect agent me donne les déterminations de l'être, mais la capacité se prend de la réceptivité. Et la foi se prend du côté de la réceptivité. Je suis dans un acte de foi ouvert à toute parole divine, à tout l'enseignement de Dieu. Et l'enseignement de Dieu, en définitive, aboutit au don du Fils du Verbe. C'est une personne que je reçois dans ma foi. C'est pas seulement une parole, c'est une personne subsistante qui est le Verbe de Dieu. Je suis réceptif à cette personne. C'est donc bien la racine même de mon intelligence ouverte à l'être, qui est ennobli, surnaturalisé par la foi, et qui me donne la capacité de recevoir le Verbe de Dieu. Vous voyez que c'est donc au-delà de la distinction intellect spéculatif, intellect pratique. C'est vraiment à la racine de la vie de l'intelligence. Et au-delà de l'intellect agent et l'intellect possible. Puisque ma foi n'est pas limitée par l'intellect possible, par l'intellect agent. Ma foi me donne une lumière nouvelle, qui est une lumière divine. C'est pour ça que je n'ai pas de nouveaux concepts. Parce que le concept est le fruit de l'action de l'intellect agent. J'ai un nouveau jugement, dans une nouvelle lumière. C'est pour ça que la foi n'est pas en connaturalité avec l'intellect agent. Ça va très loin, ça. De naturalité avec la vision béatifique. Et dans la vision béatifique, c'est le Verbe de Dieu lui-même qui viendra spécifier mon intelligence surélevée par le Lumen Glorie. Autrement dit, de nouveau, pour comprendre la foi, il faut regarder le romaine. Glorier. La lumière de gloire. Puisque la foi est tout entière ordonnée aux lumières de gloire. Et la lumière de gloire vient ennoblir l'intelligence. Vient ennoblir l'intelligence d'une manière telle que mon intelligence est capable de recevoir le Verbe de Dieu et d'être actuée, déterminée par le Verbe de Dieu, directement, sans spéciès. Alors, l'intellect agent est présent dans l'acte de foi pour le côté conditionnement humain. Mais la lumière divine est présente dans l'acte de foi pour le côté divin. L'attente de la vision béatifique. Et comme on dit que toutes les actions du Christ sont théandriques, on devrait dire que l'acte de foi est à la fois humain et divin. Et que l'alliance se fait dans la parole de Dieu, qui est à la fois parole humaine et lumière divine. Je ne veux pas les séparer. Il y a une unité parfaite. Oui. C'est pour ça que c'est si important d'aller jusqu'au bout de ce que c'est que l'intelligence humaine. Non pas pour comprendre la foi, mais pour respecter la foi. Et ne pas la ramener à l'aspect humain. Bien voir ce que c'est que l'exégèse. L'exégèse regarde le conditionnement humain de la parole de Dieu. Et uniquement ça. Et si la théologie n'est pas présente, on laïcise la parole de Dieu. La théologie rappelle tout le temps que la foi me met en contact avec le Verbe. Ça qui est une lumière divine et une attente de l'humain glorieux. Est-ce que vous voyez un peu mieux comment la foi? Oui, alors je viens, je dis ici donc la foi, l'intelligence humaine, le progrès habituel de mon intelligence humaine. De mon intelligence humaine, je l'avais là, j'aime mieux là, pour qu'on comprenne mieux. Grâce au Lumen Glorieux. Mais sur la terre, je suis en attente du Lumen Glorieux par la foi. Le progrès de l'intelligence humaine se fait d'habitude par les réalités extérieures, existantes, ces réalités que j'expérimente, l'expérience. Donc, le progrès de l'intelligence humaine se fait par l'extérieur. Et parce qu'il se fait par l'extérieur, il se fait par le conditionnement de ma vie humaine. Et par l'image. Tandis que, et c'est comme ça que j'acquiers des habitus intellectuels, j'acquiers l'habitus de science, l'habitus mathématique, l'habitus. Tandis que la foi, elle vient de l'intérieur, par la grâce. La foi émane de la grâce. Et la grâce est reçue dans l'âme spirituelle. Et de l'âme spirituelle émane l'intelligence. Et par la grâce, mon intelligence est radicalement surélevée par la foi. C'est pour ça que je dis que c'est avant la distinction. Intellect spéculatif, intellect pratique, intellect agent, intellect passif. C'est l'intelligence en tant qu'elle émane de l'âme. Et une intelligence qui est faite pour la béatitude, pour la vision béatifique. Mais quand on dit que la vision béatifique relève de l'intelligence, attention, elle relève d'une intelligence surnaturalisée. Et donc, c'est l'intelligence dans son caractère tout à fait l'intelligence, mais une intelligence unie, toute proche de la substance de l'âme. Est-ce que ça scandalise quand on dit que c'est l'intelligence qui béatifie l'homme? Mais c'est l'intelligence en ce qu'elle a de radical. La béatitude, la vision béatifique touche l'âme dans ce qu'elle a de substantiel. Et par le lumen glorié. Alors, l'intelligence découverte en philosophie du vivant, ce sera par le point de vue de l'être, dans une vision de sagesse. En philosophie du vivant, je la pose tout simplement intellect possible, intellect agent. Mais pour comprendre l'unité de l'intellect possible, l'intellect agent, c'est vraiment dans une vision de sagesse où je comprends que l'intelligence est faite pour l'être et pour Dieu. Donc l'intelligence a quelque chose de tout à fait particulier comparativement à toutes les autres substances, à toutes les autres puissances de l'âme, car elle est celle qui permet à l'âme spirituelle d'atteindre sa béatitude. Ça, je peux le dire au plan surnaturel. Au plan humain, je dirais, c'est celle qui me permet d'atteindre ma finalité ultime, la contemplation. Est le fruit de l'intelligence. Or, c'est la contemplation qui me rend bien heureux. Et alors, à ce moment-là, intelligence et amour sont un dans la contemplation. Dans la contemplation, l'intelligence et l'amour se sont embrassés. Dans la contemplation, l'intelligence et l'amour sont intimement unis. Les raisons d'intelligence et d'amour sont distinctes, mais l'acte implique les deux.
On peut pas dire que c'est antérieurement même à la distinction intelligence et volonté dans l'esprit.
Oui, si vous voulez, c'est plus délicat. C'est plus délicat parce qu'alors, il y a quand même le point de vue de la charité qui est dans la volonté. Oui. Sauf que je n'oserais pas le dire. Ça. Puisque là, pour parler de cela, il faut que je tienne compte des vertus théologales. Oui. Alors, il n'y aurait qu'une seule vertu théologale dans ce cas-là. Il n'y aurait pas besoin de trois. Vous pourriez dire la foi est tellement première par rapport même à la charité. C'est vrai. Mais la charité va plus loin que la foi. Oui. Alors, ce plus loin de la charité ne se pourrait plus expliquer. Bon, alors il y avait d'autres questions. Quel est le lien entre le nous possible et l'âme? Et quel est le lien avec le corps? Donc le nous possible émane de l'âme, de l'intelligence spirituelle. Il provient et il ouvre l'âme à la réalité extérieure à nous, ce qui est, ce qui existe, l'autre, et à moi-même comme autre, comme mon âme, à moi-même en tant qu'existant. Donc le nous me permet d'atteindre ce qui est. force de la vie. C'est l'intelligence. L'intelligence est déterminée, spécifiée par ce qui est, et non pas par le vécu, et non pas par le vivant. Elle est spécifiée par l'être. Alors là, je comprends le rapport qui existe entre le nous et l'âme. Alors qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que l'âme spirituelle est source, donc cause efficiente du nous. Mais l'âme spirituelle ne spécifie pas le nous. Donc le nous, sa cause formelle spécifie le nous, c'est ce qui est. Et non pas l'âme. Donc, l'âme n'est pas cause formelle spécificative du nous. Est-ce que l'âme est cause finale du nous? Non. La cause finale du nous, c'est la contemplation de l'être premier. Cause finale. Donc elle n'est pas cause finale. Le nous, c'est pas. L'âme n'est pas cause finale. Mais cause efficiente. Parce qu'elle n'est pas cause efficiente du nous, parce qu'elle est ouverte à l'être. Vous voyez, ce qui est terrible dans Descartes, c'est que l'âme, par les idées innées, est cause spécificatrice. C'est pour ça que l'entendement de Descartes n'est pas ouvert à l'être. Immédiatement ouvert à l'être. Tout, c'est la mort de la métaphysique. L'entendement de Descartes est premièrement tourné vers Descartes. Et Descartes n'est pas l'être. Parce que l'entendement de Descartes est tourné vers les idées innées de Descartes, qui sont Descartes. Puisque c'est la perfection, c'est l'infini, ça c'est Descartes. Et c'est pas l'être. Vous voyez, c'est là où il faut comprendre l'erreur de Descartes. C'est le lien entre entendement et âme spirituelle. Et au contraire, l'entendement, le nous Aristote, l'intelligence Aristote, n'est pas premièrement tournée sur Aristote. Comme le nous de Thomas d'Aquin. Il n'est pas premièrement tourné vers Thomas d'Aquin. Il est tourné vers l'être, vers l'autre. Vous voyez tout le problème de Lévinas. Comment atteindre l'autre? Si je me regarde en premier lieu, je n'atteins jamais l'autre. C'est parce que l'intelligence est tournée vers l'être que je peux atteindre l'autre en premier lieu. Et donc, c'est les rapports du nous et de l'âme qu'il faut évidemment regarder attentivement. Et le lien avec le corps n'est pas immédiat. Le nous n'est pas immédiatement relié au corps. Le nous est aérien. Il est spirituel. Il n'est pas immédiatement relié au corps. Le corps n'est pas cause matérielle du nous. Le corps est cause matérielle de l'âme qui informe le corps. Et le nous émane de l'âme spirituelle qui émerge du corps, qui est au-delà du corps. Et le nous sera relié au corps dans son exercice. Parce que l'image est reliée au corps par la sensation. Le lien avec la volonté, on le verra ensuite. Vous voyez bien ça, j'espère. Avec netteté, votre nous, votre intelligence, si elle est bien faite, si vous la libérez de votre égocentrisme cartésien, votre nous est tourné vers l'être. C'est en ce sens-là que Descartes nous donne une philosophie bourgeoise tournée vers Descartes. Toujours tournée vers Descartes. Descartes dans son berceau, décès Descartes. Et il ne cherchait pas l'être et la vérité. Ça lui suffisait. C'est suffisant. Son entendement est tourné vers lui. Évidemment, par les idées infinies, par les idées, mais les idées infinies, hein, regarde qui? En premier lieu, cogito. Quand il dit cogito, il cogite Descartes. C'est très important de comprendre ça. Et déjà pour Occam, c'est comme ça. Et Occam, moins nettement, ce qu'il dit intelligo est amo Socratem, parce qu'il est franciscain. Alors il aime Socrate. Vous voyez ? Et alors il y a la rectification du côté de l'amour. Alors il veut sauver la charité. En bon franciscain, il veut sauver la charité. Mais l'intelligence, il l'enterre sur Occam. C'est extraordinaire de voir ça, hein, et d'avoir que déjà dès ce moment-là, donc Occam est né 45 ans après la mort de saint Thomas. Alors mettez que quand il avait 60 ans après, il disait ça. Et donc l'intelligence de l'autre comme telle, par le point de vue de l'être, est perdu. Et la métaphysique est perdue. Elle commence à s'enfouir. 60 ans après saint Thomas. 70 ans après saint Thomas. Par le primat de la logique. Parce que la logique regardant en premier lieu l'universel, nécessairement reste dans le conditionnement de l'être humain. Bon, alors, je continue. Hein. Après avoir vu l'appréhension, la naissance du concept, de cette forme intentionnelle qui me permet d'atteindre l'acuité de ce qui est, je comprends qu'il y a un second acte d'intelligence qui est le jugement. C'est celui à partir duquel j'étais parti, puisque j'ai toujours conscience d'un jugement. Je n'ai jamais conscience de l'appréhension pure. nécessité de cette première opération qui est intrinsèque et interne au jugement. J'ai découvert sa nécessité. Je découvre maintenant ce qu'est le jugement. Alors, avant de voir le rapport entre les deux, il faut réfléchir un instant sur le caractère propre du jugement. Le jugement n'est pas, premièrement, une assimilation. Il présuppose une assimilation. Mais le jugement n'est pas, premièrement, une assimilation. Le jugement est une adhésion. J'adhère. Sartre, un petit passage très curieux. Quand Sartre, dans Situation, dans le livre sur Situation, où Sartre critique violemment la position scolastique de l'intelligence, en disant pour certains philosophes, l'intelligence est une assimilation. Eh bien non, l'intelligence n'est pas une assimilation. Quand je connais l'arbre, je l'embrasse. Il y a des yeux, je l'embrasse. On voit Sartre se précipitant sur la... Je l'embrasse. Il dit ça avec véhémence. Alors, il y a quelque chose de juste dans toute critique. Sartre critique la position scolastique décadente où l'assimilation avait tout pris. Et on pensait à l'acte d'intelligence que dans l'assimilation. Alors que, pour saint Thomas, et pour la réalité tout court, vous n'avez qu'à revenir à votre expérience, c'est vraiment le jugement qui est l'acte propre de l'intelligence. Puisque c'est là où j'ai parfaitement conscience. Or, quand vous jugez, vous affirmez ceci est, vous adhérez, ou vous dites ceci n'est pas. Vous voyez, l'intelligence a une marche arrière, si j'ose dire. Ceci n'est pas, je n'adhère pas, je recule, je prends du recul. C'est l'arbre, on y adhère. Le jugement implique d'adhérer à la réalité et de dire ceci est. Et la négation consiste à s'éloigner de la réalité. Ceci n'est pas. Je ne veux pas tomber dans le précipice. Ceci n'est pas. Mais adhérer et reculer. L'intelligence a les deux. C'est très très curieux. Et l'intelligence a aussi l'assimilation, contrairement à Sartre. L'intelligence assimile aussi, mais l'assimilation n'est pas le tout de la vie de l'intelligence, contrairement à ce que disent certains scolastiques. Faut l'intelligence à trois mouvements, et on va voir qu'elle en a un quatrième. Le point de vue du raisonnement. Et dans le raisonnement, il y a trois mouvements. Alors, si vous comptez bien, vous voyez que c'est pas si simple que ça, la structure de l'intelligence. Appréhension, affirmer, nier, induire, démontrer. C'est la structure de la vie de l'intelligence. Alors regardons ces deux mouvements, l'adhésion et le recul. Dans l'adhésion, je vois comment l'intelligence trouve son bien en affirmant la réalité qui est extérieure à elle. Donc en embrassant l'être, ce qui est, elle adhère à ce qui est extérieur à elle, et ça l'enrichit. Parce que le petit caillou est beaucoup moins présente.